I'd like to have a democracy.
Élections, le magazine des élections municipales de Radio PFM. Aujourd'hui, pour ce 10e numéro, on est avec Laura, Nico et Guy Le Polarski. Salut à vous trois.
Salut.
Salut. Salut.
Élections, 10e épisode, donc avec au programme notre dossier du jour. On vous parlera du combat pour l'égalité des gens du voyage qui compte bien tenir un rôle dans ces élections municipales. On retrouvera également Guy Le Polarski pour une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens. Mais d'abord, Laura nous propose un focus sur les règles du jeu de ces prochaines élections et le déroulement de la campagne électorale.
Et oui Boris, les candidats sont dans les starting blocks. Pour rappel, ils ont jusqu'au 26 février à 18h pour déposer leur liste pour le premier tour en préfecture. Donc je me répète un petit peu par rapport aux précédents élections, mais il existe une commission de contrôle des listes électorales qui est compétente pour contrôler la régularité des listes. Dans le cadre de son fonctionnement, elle doit se réunir une fois par an. Et l'année d'un scrutin, cette réunion doit être organisée entre le 24e et le 21e jour avant le scrutin. À Arras, elle se réunira donc le 20 février à 11h en mairie. Elle est composée de Tanguy Va, suppléé de Stéphane Prince, de Jean-Louis Lefranc, suppléé de Arnaud Michel, de Nassim Amajoud, suppléé de Théo Lobry, et de Catherine Génisson, suppléé de Thierry Aucre et de Alexandre Cousin.
Eh ben, tiens donc, pas d'élu RN dans la commission.
Oui, et il y a une explication légale à cela. Dans les communes de 1000 habitants et plus, pour lesquelles deux listes ou plus ont obtenu des sièges au conseil municipal lors du dernier renouvellement, la commission est composée de 5 conseillers municipaux. 3 issus de la liste majoritaire, donc Tanguy Va, Jean-Louis Lefranc et Nassim Amajoud, et 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, donc Catherine Génisson et Alexandre Cousin. Les conseillers municipaux issus de listes classées au-delà de la troisième position ne sont pas représentés au sein de la commission de contrôle de la commune. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. En cas d'égalité, les postes sont attribués aux plus âgés.
Tu nous donnes le calendrier ?
Donc je l'ai dit, les candidats ont jusqu'au 26 février pour déposer leur liste en préfecture. Le 27 février à 10h aura lieu un tirage au sort qui permettra de connaître l'ordre des listes et l'emplacement sur les panneaux d'affichage pour le premier tour. La campagne officielle pour ce premier tour s'étalera ensuite du 2 au 13 mars à 23h59 et 59,99 secondes. Dès le 14 mars à minuit, les candidats ont interdiction de distribution des documents électoraux et de diffusion au public de tout message à caractère de propagande électorale. C'est la fin de la campagne. La suite, vous la connaissez, les citoyens sont appelés aux urnes dimanche 15 mars et s'il y a un second tour, ça ne s'arrête pas là. Un nouveau dépôt des candidatures a lieu entre le 16 mars 9h et le 17 mars 18h. La campagne électorale du second tour se tient du 16 mars au 20 mars minuit, enfin 23h59 59,99 secondes. Minuit sonne donc la fin de la campagne électorale officielle le 21 mars et le second tour du scrutin a lieu le 22 mars. Pour les électeurs, pas d'inquiétude, les cartes électorales seront envoyées après la réunion de la commission de contrôle des listes, donc après le 20 février, et vous devrez la recevoir dans les jours qui suivent vers début mars.
Et y a-t-il des règles spécifiques pour l'affichage durant la campagne ?
Oui, le code électoral interdit aux collectivités publiques de mener des actions de propagande pendant les 6 mois qui précèdent une élection. Une commune, donc, n'a pas le droit de financer une action de communication qui ferait campagne pour un candidat. Et cette interdiction est très large et concerne également les actions de promotion, des actions réalisées ou toute communication sur la gestion locale qui pourrait avoir un impact électoral. Les candidats peuvent utiliser des moyens classiques de propagande, les tracts bien sûr. Les réunions publiques sont autorisées et peuvent se tenir sans demande d'autorisation préalable jusqu'à la veille du scrutin. L'affichage, à condition qu'il soit sur les panneaux mis en place par les mairies, à côté de chaque lieu de vote, donc pas d'affichage sauvage. Les circulaires qui peuvent être également adressés aux électeurs, donc il y a seulement une seule circulaire qui est autorisée pour l'ensemble de la circonscription électorale. Le même format de papier pour toutes les listes, une feuille recto verso maximum. Jusqu'au 31 décembre 2019, l'utilisation d'une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge était interdite sur les affiches et circulaires, et depuis le 1er janvier 2020, cette interdiction est limitée à la juxtaposition des trois couleurs dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème par un parti ou un groupement politique. La CNIL, Commission nationale informatique et liberté, insiste sur la nécessité de faire respecter les règles en matière de protection des données dans le processus électoral, quel que soit le mode de prospection. Parce que rappelez-vous, pendant les législatives, certains candidats avaient aussi contacté les électeurs via les téléphones, via des SMS, via des courriers électroniques ou les réseaux sociaux. Donc c'est un recours qui est de plus en plus fréquent et l'utilisation de l'intelligence artificielle est aussi au cœur de la campagne. Elle rappelle donc aux électeurs la mise à disposition d'une plateforme de signalement ainsi que la présence de fiches pratiques qui rappellent leurs droits dans le cadre des élections.
Et comment ça se passe pour la campagne médiatique ?
Eh bien là, c'est l'ARCOM, donc l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui veille au grain. Au cours des 6 semaines précédant le scrutin, les candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation, d'un accès équitable à l'antenne, d'un temps d'intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité. Pour les programmes locaux, la couverture de l'actualité locale doit prendre en compte les équilibres politiques locaux. Les candidats ont la possibilité d'ouvrir des sites internet pour leur campagne électorale et peuvent également utiliser leur site personnel dans un but de propagande électorale. Attention toutefois, l'affichage de publicité sur des sites de propagande électorale peut être assimilé au financement de la campagne par une personne morale. Et ce financement, il est interdit. À la veille de chaque tour de scrutin et le jour de celui-ci, il est interdit de publier, diffuser et commenter tout sondage ayant rapport avec l'élection.
Eh bien, merci Laura pour toutes ces infos et on va retrouver tout de suite Guy qui nous a préparé une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens avec un mode circulatoire doublé à gauche et passé au vert.
On a parlé d'une vague verte aux dernières élections municipales en 2020. L'expression peut paraître disproportionnée. Je rappelle que s'il y a eu une vague lors de ces élections, c'est celle de l'abstention, avec un taux record de plus de 55%. Il est néanmoins indéniable que les Verts ont créé la surprise en 2020 et réalisé une réelle percée en l'emportant, notamment dans une dizaine de grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Tours, Besançon ou encore Annecy. Situation inédite, les écologistes n'avaient dirigé jusqu'alors qu'une ville de plus de 100 000 habitants, Grenoble, conquise en 2014 par Éric Piolle, réélu en 2020. Le Covid et l'abstention massive sont sans doute pour quelque chose dans ces résultats de 2020, un Covid qui questionnait aussi sur une planète soumise à des déséquilibres sociaux et environnementaux incontrôlés, et une abstention importante au niveau des électeurs les plus âgés, notamment par peur de la contamination, électeurs moins enclins au vote écolo que les plus jeunes. Mais ces résultats reflètent aussi une prise de conscience des problématiques environnementales et climatiques qui concernent les municipalités, où des politiques écologiques peuvent être mises en place au niveau de l'urbanisme, des mobilités, de l'eau, des déchets, de l'énergie, de l'adaptation au réchauffement climatique ou encore de la restauration collective. Concernant les municipales 2020 à Arras, on ne peut assurément pas parler de vague verte, percée écolo ou pas, ça se discute. Ce qui est avéré, c'est qu'il y avait bien une liste écolo emmenée par Grégory Vatin pour EELV, Europe Écologie Les Verts, avec la participation de Génération, et que cette liste est arrivée en deuxième position, obtenant 4 élus avec 16,6% des voix, derrière les 56,6% d'un Frédéric Le Turc injouable, et devant les 11,4% du RN. Certes, à Arras aussi, le contexte Covid et abstention a joué, mais la performance est à souligner, faisant à cette occasion des écolos à Rajoy la première force de gauche devant l'association PS-PCF à 9,6%, la France Insoumise à 4,3% et LO, Lutte Ouvrière, à 1,3%. Ce bon score est peut-être aussi le résultat d'une présence régulière des écolos municipales à Arras, en autonomie ou en union, une présence qui a débuté dès 1983, soit quelques années après l'irruption de l'écologie politique dans la vie électorale française, c'était au présidentiel de 1974 avec la candidature marquante de René Dumont. En 1983, Jacqueline Istas, figure régionale de l'association Nord Nature créée en 1970, a donc été la première candidate tête de liste écolo sur Arras, une écologie qui se voulait indépendante des partis de droite et de gauche, ni droite ni gauche, disait-on à l'époque. Cette liste, Arras Écologie, sans toutefois accéder au deuxième tour ni obtenir d'élus, a néanmoins marqué les esprits avec ses 2085 voix, soit 9,9% des suffrages exprimés. Un score qui reste une référence et qui a d'ailleurs entraîné le maire sortant d'alors, Léon Fatou, dans un second tour qu'il n'avait pas vu venir. En 1989, avec la liste Alternative à gauche pour Arras, c'est une écologie politique bien à gauche, associée à la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, qui va défier la majorité municipale PS-PCF, finalement réélue dès le premier tour en 1989, une élection qui permet aux écolos, avec leurs 5,8% de voix, de faire pour la première fois leur entrée au conseil municipal. C'est Hélène Flotte qui siégera alors, cédant sa place à mi-mandat à Luc Blancard, mettant ainsi en application la revendiquée rotation des mandats. Six ans plus tard, en 1995, les Verts, menés par Laurent Cordonnier, avec la LCR, augmenteront légèrement leur score, 6,4%, mais cette fois n'obtiendront pas d'élu. Le maire sortant, Léon Fatou, contraint à un deuxième tour, refusera alors toute discussion et toute fusion pour le deuxième tour avec celles et ceux qu'il considérait comme des gauchistes. Résultat, le beffroi d'Arras aux mains de la gauche depuis 1945 tombe, à quelques voix près, dans celle de Jean-Marie Van Leurenberg pour le centre et la droite, qui vont s'y installer durablement et peut-être pour au moins 6 ans encore si Frédéric Le Turc est réélu en mars prochain. Les Verts seront aussi présents en solo au premier tour des municipales de 2001 et 2008 avec respectivement 8,3% et 9,6% des voix exprimées. Ils obtiendront 2 élus après un deuxième tour où ils fusionneront avec le PS, le PCF et MRG en 2001 et à nouveau 2 élus en 2003 mais cette fois à l'issue du premier tour remporté par Jean-Marie Van Leurenberg. En 2014, Hélène Flotte mènera pour Europe Écologie Les Verts une liste d'union avec le PS mais avec ses 16,2% pour 3 élus, elle n'a pas réussi à entraîner dans un deuxième tour Frédéric Le Turc, le successeur désigné de Jean-Marie Van Leurenberg. Bref, la présence des écolos dans la vie municipale arageoise depuis 43 ans est une réalité et elle devrait se poursuivre à l'issue du scrutin de mars prochain, reste à savoir à quel niveau, d'autant que la configuration cette fois est à l'union avec Génération, le PS, le PCF, Debout, l'Après, Place Publique et le Parti Pirate. À noter pour ces élections 2 autres listes à gauche avec celle de la France Insoumise et celle de Lutte Ouvrière. D'une manière générale, ces élections de 2026 seront un test pour les écologistes et leurs alliés dans un contexte où les conséquences du dérèglement climatique font de la transition écologique un sujet important de la campagne des municipales. Garder les villes acquises en 2020 serait déjà une satisfaction pour les écologistes et leurs électeurs. Quant à Arras, amener le maire sortant à un deuxième tour traduirait une réelle percée dans une commune qui se contente actuellement du minimum obligatoire en matière d'environnement. À l'image des 23,2% de part d'alimentation bio servie en 2024 dans les cantines des écoles primaires, qui situe Arras à la 55e place du classement des 97 villes-préfectures de France établies par l'association Agir pour l'environnement. Pas de zèle donc à Arras avec juste le respect de l'obligation légale imposant aux collectivités depuis 2022 de servir au moins 20% de bio en restauration collective. Toujours est-il que si vous souhaitez doubler à gauche et passer au vert, pour reprendre le tumultueux slogan de la liste alternative à gauche pour Arras en 1989, toujours est-il donc que si en mars prochain à Arras vous souhaitez doubler à gauche et passer au vert, vous devriez trouver le bulletin qui pourrait vous permettre d'y arriver.
Président, résident de la République, couleur rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux.
Merci Guy de Polarski et on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens. On arrive à notre dossier du jour. Nico, tu nous parles du combat des gens du voyage.
Des combats même, puisque à la base, l'association Dasovas, ça veut dire tendre la main en romanie. Dasovas donc a été créée par des femmes de la communauté des gens du voyage pour améliorer leurs conditions de vie et d'habitat. Donc à la base, c'est le collectif des femmes Hélène Ronchin qui dénonçait le fait que leur aire d'accueil soit coincée entre deux usines super polluantes, avec tous les problèmes de santé que ça pouvait engendrer. Et récemment, donc, cette association s'est aussi mobilisée pour que les gens du voyage puissent s'inscrire sur les listes électorales autour de l'île. Ça paraît incroyable en 2026 qu'il faille se battre pour ça, mais c'est bel et bien vrai. On écoute un entretien par téléphone avec Sue-Hélène Demestre, porte-parole de l'association Dasovas. C'était hier matin.
Je voudrais déjà expliquer aux personnes qui nous écoutent que l'association qui a été créée, elle a été créée d'abord pour l'habitat digne des gens du voyage. Elle est créée par les premiers concernés. C'est la première en France. Mais on a constaté qu'il y a beaucoup de problématiques pour les gens du voyage. Ça, c'est le cas de le dire. Les discriminations sont énormes. Et la campagne qu'on a menée récemment, c'est pour inscrire les gens sur les listes électorales. Pour tous les Français, c'est tout simple. Mais nous, Français qui vivons en caravane, la domiciliation est un grand problème. Pour inscrire sur les listes électorales, il faut attester d'un domicile. Mais la métropole ne prenait pas en compte que les habitants des aires d'accueil habitent à l'année. Maintenant, ils sont sédentarisés parce que notre mode de vie reste la caravane, mais on nous empêche de voyager actuellement avec tous les lois qu'on nous contraint à rester sur place. Mais les métropoles ne répondent pas aux obligations de créer l'habitat qui est adapté à notre mode de vie. Pour les inscriptions, ça a été exactement un combat, encore une fois. On a réussi à obtenir à ce que Vago, qui est gestionnaire des aires d'accueil, atteste bien avec un document qui est une attestation, qu'ils habitent bien sur l'air et avec ce document, inscrire les gens sur les listes électorales.
Donc ça veut dire que jusqu'ici, les gens ne pouvaient pas voter ?
C'est ça. En fait, ceux qui pouvaient voter, c'est ceux qui sont domiciliés dans les CCAS. Et encore là aussi, c'est très compliqué. En fait, tout ce qui concerne les gens du voyage, la domiciliation reste un grand problème. C'est un problème que nous, l'association, on a trouvé une solution pour inscrire les gens avec ce document qui n'a pas été, on pensait qu'il a été acté, accepté. On l'a appris la dernière semaine que ce document était refusé. Donc, nous, on a manifesté, mis en avant que c'est un droit fondamental et que tout le monde atteste de pouvoir aller voter. On a obtenu une victoire avec l'appui du préfet qui a fait en sorte que ce document soit accepté.
Donc, celles et ceux qui ont souhaité s'inscrire ont finalement pu le faire alors ?
Ils ont pu le faire grâce à l'association et le combat de la mobilisation que les gens ont. En fait, dans la métropole lilloise, on réussit à mobiliser les gens, à leur faire comprendre qu'ils ont des droits. Depuis que l'association existe, on a réussi à barrer beaucoup de discriminations qui étaient dans les aires d'accueil. Mais les problématiques sont encore énormes parce que l'État ne prend pas en compte que notre mode de vie évolue. Et il n'y a aucune loi qui met en avant notre mode de vie. C'est le contraire. Les lois qui sont mises en place, c'est pour nous contraindre à rester sur place, ok, mais il n'y a rien qui est construit par la suite.
Est-ce que vous, en plus de voter, vous réussissez à faire que cette question elle soit posée au niveau du débat de ces élections municipales ?
Exactement, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de l'association. En fait, on a compris que le vote était un pouvoir et surtout on a compris que les élus, c'est à eux de construire les aires d'accueil. Actuellement, nous ne voulons plus des aires d'accueil. Le besoin réel des gens, c'est de l'habitat adapté ou terrain familial locatif. Et justement, avec le vote et les personnes qui se sont inscrites, nous existons dans le monde politique, nous réclamons le relogement et surtout l'habitat digne et nous faisons en sorte que les élus comprennent que nous aussi, nous sommes là et nous attendons les retours. Qu'est-ce qu'ils vont proposer dans leur programme ? Le programme de cette année, les élus proposent toujours quelque chose, mais jamais pour les gens du voyage. S'ils veulent avoir nos voix, on veut voir si on existe vraiment pour eux.
Dernière question sous Hélène Demestre, peut-être. C'est sur. Donc, vous êtes une asso basée sur l'île, mais est-ce qu'il y a un réseau d'associations ? Est-ce que vous avez aussi une vision un peu de ce qui se passe dans d'autres régions ? Et nous, vous savez, peut-être, on est une radio arageoise. Est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau de l'Arageois concernant les aires d'accueil ici dans l'Arageois ?
Je ne sais pas trop exactement ce qui se passe dans la Rajoie, mais je sais que nous, au niveau de toute la France, on a fait en sorte, on a créé un collectif qui s'appelle le collectif ZOR, Jeunesse Romano Voyageurs, qui intègre dedans tous les voyageurs, que ce soit voyageurs, manouches, yaniches, roms, manouches. En fait, on intègre dedans toutes les personnes qui font partie de la communauté pour qu'ils puissent eux-mêmes se défendre. Et nous avons créé une grande campagne sur les listes électorales. Il y en a à Nantes, il y en a à Paris. Le but, c'est vraiment que les gens se mobilisent partout en France et mettent en avant leurs droits et qu'on revendique nous-mêmes notre mode de vie, qu'on ne nous l'efface pas comme l'État voudrait l'effacer.
Sous Hélène Demestre, porte-parole de l'association Da Sauvas, qui lutte pour faire valoir les droits civiques des gens du voyage.
Et Nico, comment ça se passe dans la Rajoie pour l'accueil des gens du voyage?
Eh bien, c'est géré au niveau de la communauté urbaine d'Arras. La CUA est en conformité avec le schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage. Elle dispose de 4 aires de stationnement ouvertes toute l'année. Alors, ce sont des petites aires, hein, 24 à 26 places. À Saint-Laurent-Blangy, à cheval sur Arras-Tilloy-les-Mauflaines, à Chicourt-d'Inville, Borin, mais cette aire est actuellement fermée pour travaux. Et puis, il y a une grande aire de grand passage qui est située à Monchy-le-Preux. Donc là, il y a 120 caravanes de capacité et c'est ouvert de mi-mai à fin septembre. Alors, il y a 10 ans, cette aire a été dénoncée pour ses conditions d'accueil jugées indignes, mais depuis, des travaux ont été effectués.
Eh bien, merci Nico pour toutes ces infos. C'est la fin de ce magazine Élection. C'était le 10e numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouveau dossier et suivre l'actualité de la campagne, une nouvelle chronique aux urnes citoyennes et citoyens. Salut.
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 Salut. Salut.